pointe, David Torchala.
Bonsoir, bienvenue dans l'heure de pointe, le magazine de société de Radio Présence. Alors si vous nous écoutez dans le Gers, dans le Béarn, dans les Hautes-Pyrénées, soyez les bienvenus. Ce soir, eh bien, nous avons une joie de retrouver, parce que je suis accompagné de deux chroniqueuses. Mais d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Anne Deslois. Bonjour Anne.
Salut. À tous les auditeurs, vraiment c'est avec joie que je vous retrouve ce soir.
Ah oui, mais vraiment, vous nous avez manqué. Anne, vous êtes bénévole engagée dans la solidarité internationale. Merci d'être venue avec votre grand et votre beau cœur. Bonsoir Delphine Pereira.
Oui, moi je suis toujours là.
Ah oui, Delphine, elle est fidèle au poste.
Et je suis ravie de retrouver Anne, je me sentais un petit peu seule.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Vous êtes... en matière de gens féminines.
Voilà, il y a déjà de la revendication. Vous êtes journaliste voilà, à la Nouvelle République des Pyrénées, groupe de la Dépêche du Midi. Et aujourd'hui, nous avons un invité. C'est vous, Frédéric Esquéré. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Parvis, la scène nationale qui est à Tarbes. Vous allez bientôt fêter un anniversaire. Vous avez fêté, c'est pas le vôtre, hein, l'anniversaire du Parvis.
Le mien, malheureusement, c'était l'année dernière, les 50 ans, donc c'est effectivement les 50 ans du Parvis cette année.
Alors,
j'ai pris un peu d'avance.
Encore 50 ans du Parvis, vous allez rester avec nous et puis on va ensemble découvrir ce qu'est le Parvis, ce qu'est une scène nationale, un lieu incroyable de production artistique. Mais d'abord, Delphine, le 25 avril, il y a aussi un autre anniversaire.
Et c'est 50 ans aussi.
Encore 50 ans, qu'est-ce que l'on célèbre?
Voilà, on va célébrer notamment à la ville dans la ville de Lourdes, parce que vous savez qu'il y a une importante communauté portugaise qui est installée à Lourdes depuis des décennies. Et le 25 avril, c'est donc les 50 ans de la fameuse révolution des œillets.
Ah oui.
Et ce jour-là, à Lourdes, il y aura la diffusion d'un film qui s'appelle Capitaine d'Avril, qui date des années 2000, mais qui est toujours d'actualité, puisque l'histoire ne change pas, à moins d'être un dictateur. Là, elle peut changer, c'est pas mal. Et ensuite, il y aura un apéritif au Palais des Congrès, au Square des Tilleuls, s'il fait beau, composé de spécialités portugaises. C'est l'occasion de revenir un petit peu sur cette histoire un peu atypique.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour la révolution des œillets, c'est la libération du
voilà.
Portugal, c'est ça?
C'est un peu ça qui vivait sous la dictature, notamment avec la mise en place de ce qu'on a appelé l'État nouveau, un régime totalement antidémocratique, donc avec un monsieur qui s'appelait Antonio de Oliveira Salazar et qui était un dictateur communément appelé comme ça. Donc sous son règne, le Conseil des ministres concentrait donc tous les pouvoirs, les syndicats étaient sous contrôle de l'État et les grèves étaient interdites. Voilà, au moins ça réglait pas mal de choses. Il y avait une police politique, c'était la police internationale de défense de l'État, qui traquait un petit peu. Alors il ne fallait pas se réunir à plus de temps, il ne fallait pas critiquer le pouvoir. Et surtout, l'État nouveau était fondé sur le colonialisme, puisque le Portugal disposait de colonies comme l'Angola, le Mozambique ou encore la Guinée-Bissau. Oui. Et en 61, les mouvements indépendantistes ont obligé l'armée portugaise à envoyer des troupes sur place et qui ont subi des pertes nombreuses. Et c'est une guerre coloniale qui s'est éternisée un petit peu et qui a vu la création en 73 du MFA, c'est le mouvement des forces armées, qui a été créé par des officiers portugais. Et donc le 25 avril, c'est le résultat donc de l'organisation de ce MFA, ce coup d'État que l'on nomme aujourd'hui la Révolution des œillets.
Et pourquoi la Révolution des œillets?
J'étais sûre que vous alliez me demander. Bien parce que ce jour-là, à Lisbonne, la population a retrouvé les militaires. Et qui était concentré autour du marché, justement, aux fleurs de Lisbonne. Oui. Et la population leur offrait donc des œillets, qui est la fleur de saison, et que les militaires mettaient dans leurs canons de fusil en signe de paix, comme une... un message comme quoi on n'allait pas tirer, que, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que, si vous voulez, c'est une révolution qui s'est faite en moins d'une journée. Le coup d'envoi a été donné à peu après minuit avec une chanson qui s'appelle Grandola Villa Morena, qui a été écrite par Zeca Afonso, qui est un poète, un chanteur, qui avait enregistré cette chanson quelques années auparavant, en 71 de mémoire, dans un studio parisien, et qui était interdite. Interdite parce qu'elle était considérée comme révolutionnaire. Et la diffusion s'est faite par le biais de la radio catholique, peu après minuit, ce qui donnait donc le coup d'envoi de cette révolution qui s'est passée à peu près tranquillement. On dénombre 4 personnes qui ont été tuées par cette fameuse police politique lapide. Mais à part ça, ça s'est déroulé sans heurts et le Portugal a ainsi basculé en quelques heures dans la démocratie.
Et c'est donc toutes les communautés portugaises, parce qu'elles sont nombreuses, oui, hein, dans notre beau sud-ouest, oui, qui vont faire mémoire de ça.
Oui, le pays va commémorer ça, parce que 50 ans, bon, c'est une date importante. Et disons que dans le contexte politique actuel, c'est pas mal de rappeler ça aussi.
Oui, de rappeler la paix, les, oui, initiatives de paix. Vous avez raison de dire. Merci Delphine de nous avoir fait partager cette histoire qui est finalement pas si lointaine que cela.
Non, hein, du tout.
Et tellement proche de nous. Et on salue aussi, hein, tous les amis portugais qui sont dans nos territoires, dans nos beaux départements
des Pyrénées. Et on les invite le 25 à partir de 18h au Palais des Congrès.
Le 25 avril à partir de 18h à Lourdes, voilà, une belle invitation. Alors Anne Deslois, oui, vous voulez réagir?
Moi, je voulais dire quelque chose parce que moi, au moment de la révolution des œillets au Portugal, j'étais une adolescente et je me souviens avoir entendu parler de ces militaires qui mettaient dans leur canon du fusil les œillets. Puis des années après, dans mon travail, notamment lié dans mon travail missionnaire, j'étais en lien avec des congrégations religieuses qui m'en ont reparlé parce que je connaissais des religieuses qui faisaient partie de communautés internationales, mais des religieuses portugaises qui m'ont dit combien l'Église, les catholiques de l'époque, quoi, ont soutenu cette démarche, quoi. Et vraiment, voilà, oui, je suis contente qu'on en parle aussi aujourd'hui.
Tout à fait. Anne, puisque vous avez le micro, gardez-le, oui, parce qu'on est contente de vous retrouver. On est un petit peu, dans cette émission Hors de Pointe, en famille et entre amis.
Tout,
voilà,
à fait.
Famille, amis, oui, c'est une expérience originale que vous venez d'organiser.
Oui, effectivement, famille, amis, bah, vous le comprenez, c'est l'association de famille et amis. C'est, on va dire, un concept, quelque chose qui m'était venu, une idée d'organiser à Lourdes. Alors moi, je suis en fait originaire des Vosges, de l'est de la France.
Oh, ça s'entend, faut pas.
Et voilà,
dire,
j'ai pas vraiment l'accent des Hautes-Pyrénées, mais je suis à Lourdes depuis maintenant un peu plus de 10 ans et j'ai découvert, en fait, je ne connaissais pas trop la cité mariale avant d'arriver, ni toutes les beautés des Pyrénées et des Hautes-Pyrénées en particulier. Et donc, je me disais, oh, j'aimerais bien dans quelque temps organiser, vous savez, une sorte de cousinade ou un rassemblement familial et amical ici à Lourdes. Et donc j'ai proposé ça, j'ai mis à peu près 2 ans à le préparer, à inviter. On était une petite trentaine de personnes. Donc,
c'est pas, Lourdes, c'est pas choisi au hasard quand même pour réunir les amis et la famille.
Non, justement, j'avais une idée derrière la tête parce que je voulais que ça soit un séjour à la fois spirituel et culturel. Il me semblait important de jumeler les deux et pour que les amis, les membres de la famille qui allaient être disponibles à cette période, c'était juste après Pâques, là, la semaine dernière, je souhaitais qu'ils viennent aussi comme pour un temps de vacances, de détente. Et puis, ce n'était pas complètement, on va dire, le terme pèlerinage que je voulais employer parce que pèlerinage, à la limite, les diocèses d'où ils viennent, ces gens-là, organisent des pèlerinages. Moi, je ne suis pas directrice d'un pèlerinage. Mais du coup, notre séjour famille-amis allait du coup englober dans son programme vraiment une belle découverte du message de Lourdes et de la vie de Bernadette Soubirous. Et on a eu la chance pour cela d'avoir une amie qui est Sœur Geneviève, qui fait partie justement de la congrégation des Sœurs de Nevers et qui nous a aidés à chausser les sabots de Bernadette pendant tout notre séjour.
Qu'est-ce qui a été marquant en fait pour les participants ?
Ce qui a été marquant pour la plupart, c'est l'appel à l'humilité. C'est-à-dire qu'on a vraiment découvert à travers le message de Lourdes, la grande humilité de cette petite paysanne, Bernadette Soubirous. Et en fait, depuis, on était parti, alors justement en dessous de la radio ou au rez-de-chaussée, il y a une grande maquette du temps, enfin Lourdes du temps des apparitions.
Oui, il faut dire que nos studios de Radio Présence sont au premier étage du musée, d'un musée du sanctuaire.
À partir de là, nous sommes allés en direction du Moulin de Boli, donc une des étapes des pas de Bernadette à Lourdes. Et le Moulin de Boli, c'est le moulin du bonheur. Et donc, on a bien découvert que l'enfance de Bernadette, malgré les difficultés matérielles, a été une enfance pleine d'amour, quoi. Ça, c'était vraiment, vraiment une grande découverte. De là, on était parti donc dans le chemin, on va dire, assez classique des pas de Bernadette, vers le cachot, qui est le lieu aussi de vie. Et au moment des apparitions, c'est de là que Bernadette va aller du côté de la grotte de Massabielle, depuis le cachot. On a été voir, bien sûr, à l'église paroissiale de Lourdes, où est encore visible le baptistère qui, en 1844, avait été le baptistère où était baptisée Bernadette. Puis de là, on est parti en direction de l'hôpital actuel, où il y a l'oratoire, puisque c'était l'oratoire des sœurs, enfin l'hospice qui était tenu par les sœurs de Nevers. Ça nous a fait, disons, parcourir la ville un peu différemment, en suivant les pas de Bernadette. Mais ce qui a été aussi très chouette, ça a été aussi de découvrir le patrimoine de cette région, et entre autres le château fort ici à Lourdes avec son musée pyrénéen. Donc ça les a beaucoup intéressés, parce que c'est vrai que dans l'équipe, il y en a beaucoup qui sont férus d'histoire. Donc c'était une découverte qu'ils n'avaient pas forcément de Lourdes. Puis on s'est dit, on va quand même aller voir les grottes de Bétarame, puisqu'on nous dit que c'est les plus belles d'Europe.
Alors c'est vrai ou pas?
Moi, c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je les voyais, mais j'avoue que parmi mon équipe de famille amie, certains avaient vu les grottes d'Ossel, dans différents coins de France ou même de Belgique. Ah, j'avoue qu'ils étaient touchés par ces stalagmites et stalactites là, de Bétarame. Ça a été vraiment un bon moment. Et ce que je voulais surtout, dans l'idée de famille amie, c'est que des gens prennent le temps de vivre, d'être ensemble, de goûter aussi au bonheur, puis en même temps, dans des périodes un peu des fois bousculées, difficiles pour certains, de retrouver vraiment un esprit de famille et d'amis. Donc voilà, ça a été réussi. Et je crois que peut-être dans 2 ans, 3 ans, on va refaire Famille Amie, édition 2.
Oh, écoutez, Foronia, merci de nous avoir partagé cette initiative. Ça peut donner des idées. Hein. Venez faire une cousinade à Lourdes.
Pourquoi pas impliquer dans toutes les familles, ça peut être sympa.
Ouais, voilà, une belle idée, une belle plongée dans la cité mariale. Alors, pour se divertir, on peut faire ça, mais on peut aussi aller voir un spectacle vivant, aller au cinéma, aller dans un centre d'art contemporain. Ce sont toutes les promesses du Parc vie de Tarbes. Frédéric Esquéré, vous êtes le directeur du Parvis. C'est une scène nationale. Cette scène nationale se trouve dans un lieu très populaire qui est le centre, le Méridien. Voilà, avec un grand supermarché et une grande galerie marchande. Il faut monter d'un étage, et alors là, on change totalement d'univers. Est-ce que vous pouvez nous aider à monter d'un étage et nous faire découvrir un peu ce qu'est le Parvis de Tarbes ?
Oui, bien sûr. Donc, vous l'avez signalé, donc, on s'appelle le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, c'est important. En fait, c'est un lieu qui est un label en fait de l'État. Hein. Les scènes nationales, c'est un label du ministère de la Culture. Il y en a 78 en France. C'est issu d'une histoire relativement ancienne, mais en même temps assez récente, puisque c'est André Malraux, qui était ministre de la Culture de Gaulle, qui a décidé de lancer le mouvement de la décentralisation théâtrale pour dire qu'il faut aussi qu'en province, les populations aient accès à ce à quoi les Parisiens ont accès dans les théâtres parisiens. Donc ça a été ce mouvement qui s'est amorcé avec les maisons de la culture dans les années 60, puis après les ministres successifs sous Pompidou, puis sous Giscard, puis peut-être le plus connu après Malraux, Jack Lang, sous Mitterrand, ont poursuivi ce mouvement. Et donc les scènes nationales regroupent aujourd'hui les anciennes maisons de la culture créées par Malraux, les anciens centres d'action culturelle créés par Jacques Duhamel partout, Pompidou, etc., etc. Donc du coup, on a la chance dans le département, parce que l'idée de Malraux au départ, c'est de dire il faut une maison de ce type dans chaque département. Donc on n'y est pas, puisqu'il y en a 78 et il y a quand même beaucoup plus de départements,
oui, c'est vrai,
en France. Mais on a la chance dans les Hautes-Pyrénées, effectivement, d'avoir un outil de ce type. Donc il y en a 7 en Occitanie. Hein. Vous avez une scène nationale à Albi, une à Perpignan, une à Sète, une à Alès, une à Foix. Et donc une à Tarbes, voilà. Et donc la deuxième particularité, vous l'avez signalé, c'est que le lieu ici se situe effectivement au-dessus d'un centre commercial. Alors il faut se repartir en arrière, le même avant la révolution des œillets, donc en 73. En 73, ouais. Donc Marc Bellit était un professeur de philo. Et sa famille, en fait sa belle famille plutôt, a donc créé le centre commercial Le Méridien. Et il est allé les voir en disant, écoutez, ça ce sont les centres-villes de demain. Si on veut faire en sorte que la culture soit accessible à tous, populaire, etc., il faut mettre les lieux de culture dans ces nouveaux centres-villes.
Ah voilà. Oui.
Et c'est comme ça que c'est né complètement d'une initiative privée. Après, il faut s'imaginer qu'en 73, vous traciez une ligne Bordeaux-Toulouse-Montpellier. Au sud de cette ligne, il n'y avait aucune structure labellisée par l'État. Donc ça a été le premier lieu un peu expérimental qui a été tout de suite repéré par le ministère. Et donc, c'est de fil en aiguille, d'année en année, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu avec, à la fois, vous l'avez signalé, du spectacle vivant, une grande salle, une petite salle qui nous permet aussi de faire beaucoup pour les scolaires, mais aussi de l'accueil en résidence, etc. Nous avons 3 salles de cinéma, mais nous gérons également 12 salles dans le département qui font partie d'un réseau, dont d'ailleurs le Palais à Lourdes.
Donc 12 salles de cinéma.
Exactement, donc au total ça fait 15 écrans. Mm-hmm. Et puis nous avons aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, un centre d'art contemporain qui vient d'être lui aussi labellisé d'intérêt national. Voilà, donc ça veut dire qu'on est vraiment un lieu pluridisciplinaire et effectivement la deuxième particularité, c'est d'être au-dessus de cet espace commercial. Ce qui n'est évidemment pas courant, puisque on est deux seuls, il y a 2 scènes nationales en France qui sont au-dessus d'un centre commercial, l'autre est en banlieue parisienne, et il y en a 2 seuls aussi qui ont cette triple activité, spectacle vivant, cinéma et art contemporain, et l'autre est aussi en banlieue parisienne. Voilà, donc c'est vraiment une particularité importante. Voilà.
Pour les habitants hein, des Hautes-Pyrénées, évidemment, c'est connu, le parvis, parce qu'on sait la richesse de la saison culturelle. C'est vrai que c'est vraiment pléthore, il y a pléthore de propositions. Ce que l'on sait peut-être un peu moins, c'est que 40% de la programmation culturelle, artistique du parvis est proposée au-delà du centre commercial, mais vraiment dans tout le département.
C'est ça. Donc déjà, vous avez le réseau de cinéma. Effectivement,
oui,
c'est-à-dire que l'idée de maintenir face aussi à la concurrence des multiplexes ou des cinémas privés un réseau de cinémas de proximité, c'est-à-dire effectivement donc dans des grandes villes quand même, Lourdes, Bagnères, ça c'est plutôt des vraies villes, mais également Cotteret, les stations de ski, hein, Barège, Saint-Lary, dans la ruralité profonde, à Cizos par exemple, donc voilà, dans le Magnoac, vous voyez, notre idée c'est vraiment d'irriguer quelque part artistiquement et culturellement le territoire, mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que en fait le parvis ne doit pas être pris comme si je fais un parallèle religieux comme étant une structure qui va évangéliser les campagnes pour leur apprendre ce qu'il faut faire en matière de culture. Les campagnes n'ont pas besoin du parvis. Il y a des initiatives formidables partout dans la ruralité profonde. Donc nous l'idée c'est d'essayer de monter des partenariats en fait avec un certain nombre de structures et de construire, de co-construire finalement une programmation culturelle de proximité en disant voilà. En gros, on peut aller dans des salles des fêtes, dans des petites églises, dans des lieux qui sont plutôt des espaces non dédiés au départ au spectacle vivant pour proposer une certaine forme de spectacle. Mais l'idée, c'est aussi de travailler sur des mobilités, de dire, ben voilà, quand on habite à Argelès-Gazost et qu'on est le 15 décembre, qu'il neige, c'est pas facile de prendre sa voiture pour aller voir un grand spectacle au parvis. Donc on a aussi travaillé sur les mobilités avec la mise en place de transports collectifs pour faire en sorte qu'il y ait un aller-retour avec le territoire. Donc on va sur le territoire pour proposer un certain nombre de spectacles, de cinéma, etc. Et on met en place des mobilités pour faire en sorte que les grands spectacles qui ne sont visibles ici qu'à Paris, ou alors, qu'à Tarbes, ou alors au plus près à Toulouse, à Perpignan, maintenant à Pau aussi, il y a quand même une vraie salle. C'est vrai que l'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent venir jusqu'à nous.
En fait, c'est le principe du transport à la demande qui a été mis en place et qui rencontre du succès.
C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le transport à la demande, qui est un programme de la région, donc avec en partenariat avec les communautés de communes. On est allé voir la région en leur disant est-ce que on pourrait développer des transports culturels à la demande. Et en fait, à partir du moment où il y a une régularité, où on justifie d'une régularité, donc la régularité, ça peut être une fois par trimestre. C'est le cas notamment avec les vallées des Gaves, avec la vallée d'Or, la vallée du Louron, qui viennent trois fois dans l'année. Donc effectivement, ça déclenche un transport à la demande de la région. Donc ça, c'est formidable parce qu'en plus, il y a des cofinancements. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire que la personne qui monte dans le bus, elle paye peut-être 2 euros. Puis ensuite, la place de spectacle, évidemment, nous, on fait des tarifs particuliers. C'est-à-dire qu'on considère que les gens qui montent dans le bus, même une fois, sont des abonnés du Parvis. Donc ils ont un tarif aussi préférentiel. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de favoriser finalement l'accès à la culture à tous.
C'est un confort pour les personnes. Il y a des points de ramassage, comme pour le scolaire, et on vous ramène chez vous.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc c'est à la fois un service et en même temps, l'idée c'est de créer aussi un peu une communauté. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est finalement d'aller au spectacle ou au cinéma ? La différence, moi je sais que j'aime beaucoup aller au cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les écrans qu'il y a dans ce studio. Pendant le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des canapés très confortables, des abonnements sur des plateformes, et puis des grandes télés. Mais ça n'a aucune commune mesure avec le fait d'avoir l'impression de faire communauté quand on est devant un spectacle, devant un film, dans une salle de cinéma. Et je pense que l'idée du transport collectif aussi, c'est aussi pour un peu désacraliser le lieu culturel. S'il y a des gens, ils se disent, le Parvis, c'est pour les intellos, c'est pour des gens déjà qui sont sur un certain niveau de culture, etc., de connaissances, et c'est pas pour moi. Alors c'est complètement faux. Nous, on essaie de lutter contre ça, on essaie de proposer l'excellence, d'être sur des choses exigeantes, effectivement, mais le fait de partir ensemble, de discuter dans un bus avant d'aller au spectacle, quand ils viennent, en plus, on essaie aussi souvent de faire des visites, des lieux, une rencontre avec les artistes après le spectacle, etc., et quand ils repartent, en fait, le fait de partager ce moment-là, c'est très important. Je pense que c'est vraiment cette idée de faire communauté.
En famille, avec des amis, aller au spectacle, au Parvis, on va continuer cette discussion riche. Vous nous parlerez de ce 50e anniversaire du Parvis de Tarbes qui se prépare. On se retrouve dans un instant.
L'heure de pointe, David Torchala.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'heure de pointe. Le week-end approche, on a envie d'aller se promener. Delphine Pereira, ça va? Vous êtes toujours là? Vous avez envie de vous promener aussi ce week-end?
Je ne sais pas si je pourrais.
Ah, peut-être.
J'ai vraiment envie d'aller promener.
Ah, ça, c'est l'avis des journalistes du groupe de la Dépêche du Midi. On ne sait jamais si on est tranquille le week-end. Anne Deslois, ça va toujours?
Moi, ça va bien, mais je crois qu'en rentrant, je vais regarder la programmation du Parvis parce que ça me donne envie d'y aller.
Eh oui, c'est vrai, on parle du Parvis de Tarbes. Voilà, avec Frédéric Esquerré, notre invité. Ça va toujours, Frédéric?
Ça va très bien, merci.
Bon, on a parlé de cet accès à la culture avec cette proposition artistique, culturelle que fait le Parvis de Tarbes, non seulement depuis le Méridien, mais aussi dans tout le département des Hautes-Pyrénées, dans la plaine et comme dans la montagne. Mais il y a un point qui est intéressant, c'est quand même l'accès aussi à la culture pour les enfants et pour les jeunes. Si on regarde vos chiffres, on parle de 40 000 jeunes qui, à un moment, participent à une proposition du Parvis.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous savez qu'on on essaie de faire en sorte que chaque jeune en France ait accès à une fois dans sa scolarité, en tout cas chaque année, à une action d'éducation artistique et culturelle. Donc il y a des conventions qui sont signées par le ministère avec les départements, avec des communautés de communes, etc., pour parvenir à ça. Et nous, notre rôle, évidemment, c'est de faire en sorte d'y parvenir, ou en tout cas d'atteindre cet objectif, de faire en sorte que chaque enfant, enfin chaque jeune, on va dire, de moins de 18 ans dans ce département, puisse avoir un accès à la culture. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on déploie une programmation spécifique en temps scolaire, mais également pour les plus grands qui viennent aussi en soirée, accompagnés de leurs professeurs. On essaie de travailler dans tous les domaines. Hein. Là, je parle vraiment du spectacle vivant, du cinéma et de l'art contemporain. C'est vrai qu'on fait 15 000 entrées scolaires sur le spectacle vivant en journée, 4 000 en soirée. un peu plus de 20 000 entrées en temps scolaire au cinéma, et puis à peu près 3 000 visiteurs pour le centre d'art. Donc par exemple, ici on est à Lourdes, donc au Palais, il y a toute l'année une programmation aussi en direction des scolaires, grâce aussi à la volonté de la ville de Lourdes, hein, notamment de l'élue Madame Mazurek. Et c'est vrai que c'est très important de donner accès, que ce soit aux collégiens ou aux lycéens de Sarcens et à toutes les écoles de Lourdes, à une programmation de proximité. Parce qu'il faut se dire aussi, on parlait tout à l'heure des déplacements, mais la difficulté pour les écoles, c'est aussi les frais de transport. C'est-à-dire qu'une école rurale, finalement, le coût du transport par élève est plus important que le coût de la place de spectacle ou de cinéma. Ouais. Donc le fait, nous, d'être un peu aussi dans cette proximité, permet aussi d'essayer de casser cette barrière financière qui, malheureusement, est très importante.
Souvent, c'est parfois le premier accès à la culture pour un enfant, finalement. Et alors, en quoi c'est important aujourd'hui de sensibiliser les enfants à la culture ?
Bon, je crois que tout simplement, c'est une ouverture d'esprit. Je pense que c'est d'abord ça. Et puis, quand on essaie d'avoir une éducation citoyenne, je pense que d'être les plus ouverts possible, c'est très important. Quand on parlait tout à l'heure de la révolution des œillets, quand vous parliez tout à l'heure des familles, des amis, etc., je pense que c'est ça qui est important. Toujours pareil, cette idée de communauté, cette idée de pouvoir partager, de partager des cultures très différentes aussi. On a parlé des Portugais ici, par exemple. On travaille beaucoup, nous, dans les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville. Pour nous, l'idée, c'est d'être accessible vraiment au plus grand nombre. Donc, quand on est ici, par exemple, à Lofit ou dans des quartiers prioritaires à Tarbes, eh bien, on a 10, 15, 20 communautés différentes. Et l'idée, c'est de comment on apprend à vivre ensemble. Et je pense que la culture permet une ouverture qui je pense, est capitale aujourd'hui, tout simplement.
On a envie de dire, il y en a un petit peu pour tout le monde avec le parvis. Tout à l'heure, vous l'avez dit assez rapidement, mais peut-être qu'on pourrait s'y arrêter. On se dit souvent, oh là là, ça, c'est pas pour moi, c'est assez élitiste. Mais il y a quelque part la communauté des abonnés, un peu du parvis. On peut les imaginer un peu, férus de culture, qui peuvent aussi être les mêmes adhérents à l'université du temps libre, à la fac de Pau, etc. Mais non, en fait, finalement, vous démystifiez ça, vous dites qu'il y en a vraiment pour tout le monde.
Oui, on essaie. Alors, il y a un chanteur humoriste qui s'appelle Wally, qu'on a programmé plusieurs fois, d'ailleurs, qui va revenir l'année prochaine à Lourdes, d'ailleurs, c'est un petit scoop. Qui dit que lui, il fait des spectacles vieux public.
Ah oui.
Parce qu'il joue devant des profs, des retraités, et parfois même, c'est les deux à la fois. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un peu l'image, et c'est une réalité. Les abonnés, effectivement, on a quand même toujours un socle d'abonnés qui, sociologiquement, c'est vraiment une caricature, hein, bien sûr, mais c'est pas loin de ça. Mais notre objectif, avoir une mission de service public, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut s'adresser au plus grand nombre et faire en sorte notamment de renouveler les publics. C'est pour ça que travailler en direction de la jeunesse, c'est hyper important. Et d'avoir du coup une offre qui soit un éventail extrêmement large. Ce que je veux dire, c'est que si je programmais pour moi, je programmerais 20% des spectacles qu'on voit au parvis. Il y a des choses qui, moi, ne m'intéresse pas du tout, très honnêtement, parce que c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'aime beaucoup aussi des choses extrêmement rock'n'roll que je ne vais pas programmer, par exemple. Mais l'idée, c'est de se dire, bien, il faut de la danse néoclassique, comme on a souvent avec des grands ballets. Il faut du théâtre classique, du théâtre très contemporain. On a du cirque pour les familles. En musique, on va de l'orchestre du Capitole jusqu'à la chanson. Là, on avait Tiken Jaffa Coli, reggae-man africain, il y a quelques jours. Bon, voilà, l'idée, c'est d'avoir un panel extrêmement large, justement pour dire qu'à chacun, eh bien, peut-être que je peux trouver mon bonheur là-dedans, mais on n'a pas une politique de réponse à la demande. Vous voyez la différence entre le showbiz et la culture, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que quand on est dans le showbiz, les gens veulent, je vais citer un nom, mais c'est vraiment sans aucune animosité, veulent Michel Sardou au Zénith à Pau. Eh bien, les gens sont capables de payer 80 euros pour aller voir Michel Sardou au Zénith, parce que c'est ce que les gens demandent. Nous, on ne va pas être forcément que sur des noms extrêmement connus, mais on va avoir une politique d'offre avec des tarifs bien plus abordables. Et l'idée, c'est de faire en sorte de donner envie, finalement, à des gens de découvrir des choses vers lesquelles ils n'iraient pas naturellement. Et c'est pour ça qu'on a un gros travail avec le scolaire. Donc, c'est les profs qui font ce travail-là. Vous parliez tout à l'heure des associations. Donc, les associations dans la ruralité sont des relais pour nous. Ils disent, voilà, mais venez, on va aller voir un spectacle de danse au parvis, vous allez voir, etc. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de travailler aussi sur la médiation. Nous, on a une grosse équipe de médiateurs qui vraiment font ce travail-là pour aller chercher des gens qui ne viendraient pas si on n'allait pas les chercher. marché. Voilà. Quand vous allez, on va, par exemple, je donne un autre exemple, mais c'est parlant, quoi. Quand on va à l'Utop, vous voyez, l'Utop, c'est la nouvelle université de Tarbes, c'est-à-dire qui regroupe l'ENIT et l'IUT, etc. Si vous faites un sondage auprès des étudiants, ce qui a été fait, pas par nous, hein, par les gens de l'université, les jeunes, quand on leur demande « Est-ce que ça vous intéresse le cinéma, le spectacle, etc. ?» Non. En fait, ce qui les intéresse, c'est le sport. Donc ça veut dire si on est dans une politique de réponse à la demande des étudiants, eh bien, on fait du sport et des beuveries le jeudi soir. Bon, je n'ai rien contre, ni le sport. D'ailleurs, pour l'anecdote, je connais bien Lourdes, parce que j'ai joué au football club lourdais au rugby il y a très longtemps. Voilà, parce que moi, mon sanctuaire à moi, c'était le stade Antoine Béguer.
Il s'appelle, chers auditeurs, Frédéric Esquerré. Fouillez dans vos mémoires.
Voilà. Non, mais tout ça pour dire que c'est important d'avoir cette politique d'offre et d'ouverture et de travailler ensemble pour donner envie aux gens finalement d'aller vers, de les déplacer un peu, d'aller vers des choses qui sont peut-être pas forcément naturelles pour elles, quoi, tout simplement.
Moi, quand j'entends justement toute votre ouverture pour tout public, je me dis aussi pour la jeune génération, ça peut éveiller des vocations musicales, théâtrales, etc. Ça peut donner envie de se dire, tiens, si c'était aussi pour moi, quoi. Ils peuvent. Alors, est-ce que vous avez des organisations, des fois, de stages de clown ou pour des musiciens? Est-ce que ça existe
par
vie? Alors,
nous, ce que nous faisons, notre métier, c'est vraiment de faire une programmation avec des artistes professionnels. Mais vous avez tout à fait raison, c'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a aussi des conservatoires. Enfin, il y a un conservatoire donc dans l'agglo, donc qui dépend de l'agglomération, avec beaucoup de cours de musique, mais ils font aussi de la danse, etc. Et l'idée, je crois que si on veut donner envie et donner des clés à la jeunesse, c'est d'être à la fois dans de la pratique, donc ce que vous dites, donc des stages, etc., en tout cas d'une pratique artistique, d'être dans la rencontre avec des œuvres et des artistes. Et c'est vrai que ça, c'est ce combo-là qui fait qu'on peut arriver à donner envie à des gens d'être soit des spectateurs, soit eux-mêmes des artistes amateurs ou pourquoi pas professionnels plus tard. Donc c'est vraiment un ensemble. Nous, on travaille sur de la médiation, c'est-à-dire on propose des ateliers, on propose des parcours dans la saison, mais on n'est pas un organisme qui propose des stages réellement. Voilà. En revanche, on travaille avec des structures dont c'est la mission principale, dont les conservatoires.
Pour le stage de clown, Delphine, il faut qu'on trouve une adresse quand même pour Anne, parce que je sens un peu de déception pour le stage de clown.
Je vais juste faire une petite parenthèse. Quand j'étais en seconde, donc ça remonte déjà quelques années, c'était presque pendant la révolution des œillets, peut-être pas 50 ans, mais pas loin, j'ai écrit à Annie Fratellini, École nationale du cirque à Paris, parce que je voulais faire l'école du cirque. Elle m'avait répondu d'une façon extraordinaire, en me mettant bien face à la réalité, c'est-à-dire que si je quittais mes Vosges natales pour aller à l'École nationale du cirque, ça voulait dire une vie à Paris, toute seule, enfin bon, etc. Et si c'était pour simplement ne pas passer le bac, eh ben, il fallait que je sache que je passerais quand même le bac et je ferais la discipline de clown en parallèle. Donc, je fais le clown autrement.
Le 15 juin 2024, c'est le grand jour, c'est le jour anniversaire des 50 ans. Vous préparez un bel événement ?
Oui, bien, en fait, on a décidé de fêter les 50 ans tout au long de la saison. Donc déjà, dans la programmation, on avait estampillé des spectacles 50 ans, faisant revenir des gens qui avaient été programmés en 74, Maxime Le Forestier, par exemple, et d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout au long de l'année. Et là, on a décidé, effectivement, puisque c'est aussi les 50 ans du Méridien, de faire une opération très grand public, ouverte à tous, gratuite, tout au long de la journée du 15 juin. Donc on va présenter la nouvelle saison, donc 2024-2025, le matin. Il va y avoir un vernissage de l'exposition pour les 50 ans du Parvis où 25 artistes qui ont été programmés parrainent 25 jeunes artistes émergents, donc une grande exposition qui sera inaugurée ce jour-là. On a un grand marathon du cinéma, donc tout est sur le principe de la gratuité. Et puis en fin de journée, on va proposer un temps fort autour de la collégiale d'Ibos pour essayer de faire la liaison. Vous savez que ça s'appelle le méridien à cause du méridien de Greenwich qui passe au-dessus, à peu près au-dessus, on va dire entre la collégiale d'Ibos et le méridien. Donc du coup, on va faire une déambulation qui va partir de la collégiale d'Ibos et qui va finir au Méridien, une déambulation de feu avec une compagnie qui s'appelle La Machine, une compagnie de Toulouse, connue pour ses géants, vous savez, qui ont fait... Alors, nous, évidemment, le Minotaure, et ça c'est, évidemment, c'est absolument pas dans les moyens d'une structure comme la nôtre, c'est uniquement des grandes villes, des grandes métropoles qui peuvent réaliser ce type de spectacle, mais ils ont une antenne de leur compagnie qui fait des déambulations de feu avec des installations très spectaculaires de feu où tous les gens vont faire une espèce de procession avec des flambeaux, des machines, etc., pour finir par l'embrasement du Méridien avec un feu d'artifice, enfin, une finale pyrotechnique et musicale, donc devant le Méridien. Voilà, puis après, il y a un after qui va se passer dans un tiers-lieu qui s'appelle Le Lien à Ibos. Voilà, l'idée, c'est que c'est de venir en famille, finalement, ou entre amis, hein, pour reprendre votre chronique de tout à l'heure, et de profiter de cette journée, de soit de venir ponctuellement voir une chose dans l'après-midi, soit de venir au spectacle le soir, soit, pour ceux qui le souhaitent, de venir toute la journée, et même assez tard dans la nuit. On est en train de travailler toujours pareil sur la mise en place de mobilité, depuis notamment le centre-ville de Tarbes, pour que les gens puissent venir et rentrer chez eux tranquillement. Voilà, on est en train de travailler à tout ça, et donc effectivement, le 15 juin... on invite tous les Hauts-Pyrénéens et au-delà, les Gersois, puisque vous êtes écoutés dans le Gers, et les Béarnais, puisque vous êtes écoutés dans le Béarn. On invite tout le monde à venir fêter cet anniversaire avec nous le 15 juin.
Belle date, le 15 juin à Tarbes pour une procession autrement, vous avez dit. D'ici le 15 juin, on peut quand même s'intéresser au parvis. Il y a un site internet www.parvis.net, parvis, P-A-R-V-I-S, www.parvis.net. En fait, on a accès à toute la programmation ?
Absolument, absolument. Tout est très bien référencé sur notre site, et notamment toute la programmation cinéma. Je dis ça parce qu'il y a un livret que vous pouvez télécharger chaque mois avec toutes les séances dans tout le département. Donc toutes les séances de Lourdes sont indiquées, comme les séances de Barège. Donc voilà, il y a absolument tout sur le site.
Voilà un lieu que l'on connaît, on en connaît un peu plus avec vous, on salue vraiment cet accès à la culture, voilà, ce point de création qui est à Tarbes et qui se diffuse là, dans tous les Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup Frédéric
d'avoir été
notre invité. On aimerait en savoir plus et on voudrait que vous reveniez pour nous donner des nouvelles du parvis.
Je ne manquerai pas.
Voilà, parce que c'est toujours riche. Ben, peut-être que du coup pour le week-end, Anne, alors il y a pas un hein, stage de clown, et je viens de regarder sur le site, vraiment désolé, mais je pense qu'il y a quand même d'autres choses. D'aller trouver votre bonheur pour ce week-end, si
oui,
vous voulez vous promener.
Sûre.
Bon, très
je
bien.
Je regarderai le site en rentrant.
Merci Delphine, et puis merci Anne, et on se retrouve à la prochaine fois.
Avec plaisir.
Allez, à bientôt. Merci.
Merci.
L'heure de pointe, David Torchala.